Nonne. Où l'abbé se montre fier des richesses de son abbaye et plein de crainte au sujet des hérétiques, et pour finir, Azzo se demande s'il n'a pas mal fait d'aller de par le monde. Nous trouvâmes l'abbé dans l'église face au maître-autel. Il suivait le travail de plusieurs novices qui avaient retiré de quelque anfractuosité secrète une série de vases sacrés, calices, patènes, ostensoirs et un crucifix que je n'avais pas vu pendant la fonction du matin. Je ne pus retenir une exclamation d'émerveillement devant la fulgurante beauté de ces objets de culte. C'était en plein midi, et la lumière entrait à flots par les vitraux du chœur et davantage encore par ceux des façades, formant de blanches cascades qui, telles de mystiques torrents de divine substance, allaient se croiser en différents points de l'église, inondant l'autel même. Les vases, les calices, tout révélait sa propre matière précieuse. Entre le jaune de l'or, la blancheur immaculée des ivoires et la transparence du cristal, je vis rutiler des gemmes de toutes les couleurs, de toutes les dimensions, et je reconnus l'hyacinthe, la topaze, le rubis, le saphir, l'émeraude, la chrysolite, l'onyx, l'escarboucle et le jaspe et l'agate. Et dans le même moment, je me rendis compte de tout ce que, le matin, ravi en prière et puis bouleversé par la terreur, je n'avais pas remarqué. Le paliotto de l'autel et trois autres panneaux qui lui faisaient couronne étaient entièrement d'or, et enfin l'autel entier paraissait d'or de quelque côté qu'on le regardât. L'abbé sourit devant mon étonnement. « Ces richesses que vous voyez, dit-il, tourné vers moi et mon maître, et d'autres que vous verrez encore, sont l'héritage de siècles de piété et de dévotion et témoignent de la puissance et de la sainteté de cette abbaye. Princes et puissants de la terre, archevêques et évêques ont sacrifié à cette sainte table et aux objets qui lui sont destinés les anneaux de leurs investitures, les ors et les pierres qui étaient le signe de leur grandeur, et les ont voulus ici, refondus, pour la plus grande gloire du Seigneur et de ce lieu. Bien qu'aujourd'hui l'abbaye ait été funestement marquée par un autre événement douloureux, nous ne pouvons oublier face à notre fragilité la force et la puissance du Très-Haut. S'approchent les festivités de Noël, sainte nativité, et nous commençons à fourbir les objets du culte, de façon que la naissance du Sauveur soit ensuite célébrée avec tout l'éclat et la magnificence qu'elle mérite et exige. Tout devra apparaître dans toute sa splendeur, ajouta-t-il en regardant fixement Guillaume. Et je compris ensuite pourquoi il insistait avec autant d'orgueil pour justifier son comportement. Car nous pensons qu'il est utile et convenable de ne pas cacher, mais au contraire, de proclamer les divines largesses. « Certes, dit Guillaume avec courtoisie, si votre sublimité juge que le Seigneur doit être glorifié ainsi, votre abbaye a atteint la plus grande excellence dans ce concours de louanges. « Et ainsi se doit-on de faire, dit l'abbé, si amphores et flacons d'or et petits mortiers en or servaient, selon la coutume, par volonté de Dieu ou ordre des prophètes, à recueillir le sang des chèvres ou des veaux ou de la jument dans le temple de Salomon, à plus forte raison, vases d'or et pierres précieuses et tout ce qui a de la valeur parmi les choses créées doivent être utilisés avec continuelle révérence et pleine dévotion pour accueillir le sang de Christ. Si pour une seconde création, notre substance venait à être la même que celle des chérubins et des séraphins, il serait encore indigne le service auquel elle pourrait se prêter pour une victime aussi ineffable. « Ainsi soit-il, dis-je. Beaucoup objectent qu'un esprit saintement inspiré, un cœur pur, une intention pleine de foi, devrait suffire à cette fonction sacrée. Nous sommes les premiers à affirmer explicitement et résolument que c'est bien là chose essentielle. Mais nous sommes convaincus qu'on doit rendre l'hommage aussi à travers l'ornement extérieur des objets sacrés, car il est suprêmement juste et convenable que nous servions notre Seigneur en toutes choses intégralement, lui qui ne s'est pas refusé de nous pourvoir en toutes choses intégralement et sans exception. Voilà qui a toujours été l'opinion des grands de votre ordre, consentit Guillaume. Et je me rappelle les fort belles choses écrites sur les ornements des églises par le très grand et vénérable abbé Sugère. « C'est ainsi, dit l'abbé. Vous voyez ce crucifix. il n'est pas encore complet. » Il le prit dans la main avec un amour infini et le considéra d'un visage rayonnant de béatitude. « Ici manquent encore quelques perles, et je n'en ai pas encore trouvé d'une assez belle eau. » Autrefois, saint André s'adressa à la croix du Golgotha en la disant « ornée des membres de Christ comme de perles ». Et c'est de perles que doit être orné cet humble simulacre du grand prodige. Même si j'ai jugé opportun d'y faire sertir à cet endroit, au-dessus de la tête même du Sauveur, le plus beau diamant que vous ayez jamais vu. » Il caressa de ses mains dévotes, de ses longs doigts blancs, les parties les plus précieuses du bois sacré, ou plutôt de l'ivoire sacré, car c'est de cette matière splendide qu'étaient faits les bras de la croix. Quand, tandis que je m'enchante de toutes les beautés de cette maison de Dieu, que le charme des pierres multicolores m'a arraché aux soins extérieurs, et qu'une digne méditation m'a conduit à réfléchir, transférant ce qui est matériel à ce qui est immatériel, sur la diversité des vertus sacrées, alors j'ai l'impression de me trouver, pour ainsi dire, dans une région de l'univers qui n'est plus tout à fait enclose dans la boue de la terre, ni tout à fait déliée dans la pureté du ciel. Et il me semble que, grâce à Dieu, je peux être transporté de ce monde inférieur au monde supérieur par voie anagogique. » Il parlait, et il avait tourné son visage vers la nef. Une cascade de lumière qui pénétrait d'en haut par une particulière bienveillance de l'astre diurne l'illuminait au visage et aux mains qu'il avait ouvertes en forme de croix, ravi qu'il était par sa propre ferveur. « Chaque créature, dit-il, qu'elle soit visible ou invisible, est une lumière amenée à l'être par le Père des Lumières. Cet ivoire, cet onyx, mais aussi la pierre qui nous entoure, sont une lumière, parce que je perçois qu'ils sont bons et beaux, qu'ils existent selon leurs propres règles de proportion, lesquelles, diffèrent par genre et espèce de tous les autres genres et espèces, sont définis par leur propre nombre, ne se dérobent pas à leur ordre, cherchent leur lieu spécifique conformément à leur gravité. Et ces choses me sont révélées, d'autant mieux que la matière éclatante sous mes yeux est de par sa nature précieuse, et elle se fait d'autant mieux lumière de la puissance créatrice divine que je dois remonter à la sublimité de la cause, inaccessible dans sa plénitude, à partir de la sublimité de l'effet. Et combien plus haut me parle de la divine causalité un effet admirable tel que l'or ou le diamant, si d'elle déjà réussissent à me parler l'excrément et l'insecte même. Et alors, quand dans ces pierres je perçois de ces choses supérieures, mon âme pleure de joie émue, et non par vanité terrestre ou amour des richesses, mais par amour très pur de la cause première non causée. C'est là vraiment la plus douce des théologies, dit Guillaume avec une parfaite humilité, et je vis qu'il employait cette insidieuse figure de pensée que les rhéteurs appellent ironie, qu'on utilise toujours en la faisant précéder de la pronunciatio, qui en constitue le signal et la justification, chose que Guillaume ne faisait jamais. Raison pourquoi l'abbé, plus enclin à user des figures de discours, prit Guillaume au pied de la lettre et ajouta, encore en proie à son ravissement mystique, « C'est la plus immédiate des voies qui nous met en contact avec le Très-Haut, matérielle théophanie. » Guillaume toussa poliment. « Et, oh, » dit-il. Il faisait ainsi quand il voulait introduire un autre sujet. Avec une parfaite bonne grâce d'ailleurs, parce qu'il était dans ses habitudes, et je crois que c'est typique des hommes de sa terre, de commencer chacune de ses interventions par de longs gémissements liminaires, comme si mettre en branle l'exposition d'une pensée accomplie lui coûtait un grand effort de l'esprit. Alors que, j'en étais désormais convaincu, plus ses gémissements étaient nombreux avant son assertion, plus il était sûr de l'excellence de la proposition qu'elle exprimait. « Et, fit donc Guillaume, nous devrions parler de la rencontre et du débat sur la pauvreté. » « La pauvreté, » dit l'abbé encore tout rêveur, comme s'il lui en coûtait de descendre de cette belle région de l'univers où l'avaient transporté ses gemmes. « C'est vrai, la rencontre. » Et ils commencèrent une discussion serrée sur des choses qu'en partie je connaissais déjà et en partie je parvins à comprendre en écoutant leur entretien. Il s'agissait, comme je l'ai dit dès le début de cette chronique fidèle, de la double querelle qui opposait d'un côté l'empereur au pape et de l'autre le pape aux franciscains qui, lors du chapitre de Pérouse, fût-ce avec des années et des années de retard, avaient fait leur les thèses des spirituels sur la pauvreté de Christ, et de l'embrouillement qui s'était formé en unissant les franciscains à l'Empire, embrouillement qui, de triangle d'opposition et d'alliance, s'était désormais transformé en un carré par l'intervention, à moi encore fort obscure, des abbés de l'ordre de Saint-Benoît. Pour ma part, je n'ai jamais saisi avec clarté la raison pour laquelle les abbés bénédictins avaient donné protection et asile aux franciscains spirituels, avant encore que leur propre ordre en partageât de quelque façon que ce fût les opinions. Car, si les spirituels prêchaient le renoncement à tous les biens terrestres, les abbés de mon ordre, j'en avais eu ce jour même la lumineuse confirmation, suivaient une voie non moins vertueuse, mais diamétralement opposée. Je crois que les abbés considéraient qu'un excessif pouvoir du pape signifiait un excessif pouvoir des évêques et des villes, alors que mon ordre avait gardé intacte sa puissance au cours des siècles, précisément en lutte avec le clergé séculier et les marchands citadins, se plaçant comme médiateur direct entre le ciel et la terre et conseiller des souverains. J'avais entendu répéter tant de fois la phrase selon laquelle le peuple de Dieu se divisait en pasteurs, autrement dit les clercs, chiens, autrement dit les guerriers, et brebis, le peuple. Mais j'ai appris par la suite que cette phrase peut être redite de différentes façons. Les bénédictins avaient souvent parlé non pas de trois ordres, mais de deux grandes divisions, l'une qui concernait l'administration des choses terrestres et l'autre qui concernait l'administration des choses célestes. En ce qui concernait les choses terrestres, la division entre clergé, seigneur laïc et peuple était valable, mais sur cette tripartition dominait la présence de l'ordo monachorum, lien direct entre le peuple de Dieu et le ciel, et les moines n'avaient rien à voir avec ces pasteurs séculiers qui étaient les prêtres et les évêques, ignorants et corrompus, soumis désormais aux intérêts des villes, où les brebis n'étaient plus tant les bons et fidèles paysans, mais bien les marchands et les artisans. Point ne déplaisait à l'ordre bénédictin que le gouvernement des simples fût confié aux clercs séculiers, pourvu que le règlement définitif de ce rapport fût établi par les moines, en contact direct avec la source de tout pouvoir terrestre, l'Empire, ainsi qu'il l'était avec la source de tout pouvoir céleste. Voilà pourquoi, je crois, de nombreux abbés bénédictins, pour restituer sa dignité à l'Empire contre le gouvernement des villes, évêques et marchands unis, acceptèrent aussi de protéger les franciscains spirituels dont ils ne partageaient pas les idées, mais dont la présence les arrangeait dans la mesure où elle offrait à l'Empire de bons syllogismes contre le pouvoir excessif du pape. C'étaient là les raisons, argai-je, pour lesquelles Abbon s'apprêtait maintenant à collaborer avec Guillaume, l'envoyé de l'empereur, pour servir de médiateur entre l'ordre franciscain et le siège pontifical. De fait, même dans la violence de la dispute qui faisait tant péricliter l'unité de l'Église, Michel de Cézanne, plusieurs fois appelé en Avignon par le pape Jean, s'était enfin disposé à accepter l'invitation parce qu'il ne voulait pas que son ordre brisât définitivement avec le pontife. En tant que général des franciscains, il voulait à la fois faire triompher leur position et obtenir l'approbation du pape, car il avait aussi l'intuition que sans l'approbation papale, il ne pourrait longtemps demeurer à la tête de l'ordre. Mais beaucoup lui avaient fait observer que le pape l'attendrait en France pour lui tendre un piège, l'accuser d'hérésie et lui faire un procès. C'est pourquoi il conseillait que le voyage de Michel en Avignon fût précédé de quelques pourparlers. Marsile avait eu une meilleure idée, envoyer en même temps que Michel un légat impérial qui présenta au pape le point de vue des tenants de l'empereur. Non tant pour convaincre le vieux Cahors que pour renforcer la position de Michel qui, faisant partie d'une légation impériale, n'aurait pu aussi facilement tomber proie de la vengeance pontificale. Ce projet présentait toutefois de nombreux inconvénients et n'était pas réalisable sur le champ. De là l'idée d'une rencontre préliminaire entre les membres de la légation impériale et quelques envoyés du pape, afin d'établir les respectives positions et de rédiger les accords pour une rencontre où la sécurité des visiteurs italiens serait garantie. L'organisation de cette première rencontre, c'est justement Guillaume de Baskerville qui en avait été chargé, qui devrait par la suite représenter le point de vue des théologiens impériaux en Avignon, s'il jugeait que le voyage était possible sans danger. Entreprise malaisée, car on supposait que le pape, qui voulait Michel tout seul afin de pouvoir le réduire plus facilement à l'obéissance, enverrait en Italie une légation instruite de façon à faire échec, dans toute la mesure du possible, au voyage des envoyés impériaux à sa cour. Guillaume avait manœuvré jusqu'alors avec une grande habileté. Après de longues consultations avec différents abbés bénédictins, voilà la raison des nombreuses étapes de notre voyage, il avait choisi celle où nous nous trouvions précisément, parce qu'on savait que l'abbé y était tout dévoué à l'Empire, et cependant, grâce à sa grande souplesse diplomatique, point mal vu à la cour pontificale. Territoire neutre, donc, l'abbaye, où les deux groupes pourraient se rencontrer. Mais les résistances du souverain pontife ne s'arrêtaient pas là. Il savait que, une fois sur le terrain de l'abbaye, sa légation serait soumise à la juridiction de l'abbé, et comme elle serait aussi en partie composée de membres du clergé séculier, il n'acceptait pas cette clause, invoquant sa crainte d'une chausse-trappe impériale. Il avait alors posé la condition que l'intégrité de ses envoyés serait confiée à une compagnie d'archers du roi de France, aux ordres d'une personne ayant toute sa confiance. J'avais vaguement entendu Guillaume discuter de cela avec un ambassadeur du pape à Bobbio. Il s'était agi de définir la formule par laquelle désigner les devoirs de ladite compagnie, autrement dit, ce qu'on entendait par sauvegarde de l'intégrité des légats pontificaux. On avait finalement accepté une formule proposée par les Avignonnais et qui avait paru raisonnable. Les gens armés et qui les commandaient auraient eu juridiction sur tous ceux qui, en quelque manière, cherchaient à attenter à la vie des membres de la légation pontificale et d'en influencer le comportement et le jugement par des actes violents. Alors, le pacte était apparu comme inspiré par de pures préoccupations formelles. À présent, après les faits récents survenus dans l'abbaye, l'abbé se montrait inquiet et il manifesta ses doutes à Guillaume. Si la légation arrivait à l'abbaye alors que l'auteur des deux crimes était encore inconnu, le lendemain, les préoccupations de l'abbé devaient augmenter car les crimes seraient portés au nombre de trois. Il aurait fallu admettre que circulait dans ses murs un quidam capable d'influencer par des actes violents le jugement et le comportement des légats pontificaux.